France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Et bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT, grève SNCF qui perturbe le pays, et pas que, ça perturbe certains, sérieusement. Ce matin, c'est une histoire vraie, j'arrive à Radio France et un homme dans le hall. Alors Radio France, c'est un très gros bâtiment, hein, vraiment, qui peut ressembler aussi à une gare, me demande, mais où sont les voies pour les trains, véritablement? Et je crois en fait qu'il s'était vraiment trompé de bâtiment, ou alors nous avons un train secret, hein, en cas d'émeute syndicale, je ne sais pas. Donc je tiens à préciser que Radio France ne délivre pas de billets, enfin pas encore, avec ces histoires de fusion. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on verra ça. Et eux, ils ont quitté leur doux foyer pour nous rejoindre. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Marion Mourgue du Figaro. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Également Gaspard Koenig, bonsoir.
Bonsoir.
Président du think tank Génération Libre. Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir.
Bonsoir.
De Libération. Et Catherine Rambert, journaliste. Et de Women Strategy for Success également. Et ce soir,
bonsoir.
Nous parlerons des réformes au pas de charge, des mouvements sociaux, le printemps sera chaud. Et pour en parler, en ce début d'émission, nous recevons Éric Meyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire fédéral de Sud Rail. Alors depuis ce matin, il se passe quelque chose en France. Si vous êtes coutumier des réseaux sociaux, vous avez dû remarquer des utilisateurs postant des vidéos de trains quittant leur voie avec cette phrase incroyable, un train qui roule. Presque un phénomène hein, surnaturel. 33,9% de grévistes, ils étaient 35% le 22 mars dernier, mais... Parmi les agents indispensables à la circulation des trains, le taux de grévistes atteint 48%. Et oui, mardi matin, contre 36% le 22 mars. Donc c'est assez important. Un TGV sur 8 dans les régions, c'était un TER et un Transilien sur 5 étaient annoncés. En Ile-de-France, c'était la circulation des RER qui allait d'un train sur 2 à 1 sur 5, avec certaines branches pas du tout desservies. Un mardi noir pour les usagers. Et un mercredi également, puisque le principe de cette grève est de 2 jours par semaine jusqu'à fin juin, afin de protester contre la réforme ferroviaire. Et chacun essaye de s'organiser comme il peut, comme cette femme dont nous avons pris le témoignage, était à Lille ce matin.
Là, nous attendons notre train pour la gare de Lyon, pour la gare du Nord à Paris. Et ensuite, en fin d'après-midi, nous avons un train qui nous amène à Nantes. Et de Nantes à Roche-sur-Yon, on va appeler des amis ou quelqu'un pour venir nous chercher.
Voilà, donc ça c'était une usager donc de SNCF ce matin à Lille. Éric Meyer, aujourd'hui, pour vous, est-ce que c'est un succès, cette mobilisation d'aujourd'hui?
Ah oui, c'est une mobilisation très forte. Alors on va pas rentrer dans la polémique des chiffres avec la direction de la SNCF. Hein, un TER sur 10, un TGV sur 8, 33% de grévistes. Voilà, hein, après soit la direction est incompétente à organiser le service, soit les chiffres réels sont pas ceux qui sont donnés. En tout cas, nous, les chiffres qui nous sont remontés sont pas de l'ordre de ceux qui sont aujourd'hui fournis par la SNCF. Et oui, c'est aujourd'hui une mobilisation massive des cheminots telle qu'on l'a pas connue, nous, depuis des années.
Donc, vous diriez à partir de ce soir que cette grève est partie pour durer?
Nous, ce qu'on dit, ça fait un mois qu'on prévient le gouvernement, qu'on demande de vraies négociations. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement a attendu pendant un mois, nous a reçu bien gentiment dans le cadre de réunions d'information, et qu'en fait ils attendaient le début du conflit afin de mesurer le mécontentement des cheminots.
Marion Mourgue, quand vous entendez ça juste au départ, après on va parler véritablement de la SNCF, mais on entend souvent dans les différents mouvements sociaux la mise à mal de cette méthode de concertation d'Emmanuel Macron. On a l'impression qu'on l'avait découverte avec la loi travail et que depuis, les syndicats, ils sont pas très chauds en disant ça sert à rien d'aller négocier puisque tout est déjà écrit.
C'est vrai que là, ça s'est accentué avec Emmanuel Macron. On se souvient que il y a 6 semaines à peu près, dans l'entourage du président, on disait l'obstacle de la SNCF passé, on arrivera à réformer sans problème. Bon, là, Emmanuel Macron, dès le départ, il a mis le paquet. Une mauvaise communication, donc oui, il l'a bloqué de plus en plus.
De plus en plus. Éric Meyer, que répondez-vous quand le gouvernement dit « si on ne transforme pas la SNCF meurt »
Oh bah, moi, je réponds que la SNCF, contrairement à tout ce que le gouvernement peut dire, a annoncé ses résultats 2017 il y a maintenant 3 semaines, 1,3 milliard d'euros de bénéfices après impôts. Voilà, pour une entreprise qui est au bord de l'agonie, j'en connais beaucoup qui aimeraient avoir des résultats de cette nature.
Gaspard Koenig,
C'est très bien, donc elle aura rien à craindre de la concurrence si elle est bonne et performante. Mais ça ne va pas être un problème.
Aujourd'hui, la concurrence telle qu'elle est envisagée par le gouvernement, c'est pas la concurrence à l'allemande ou la concurrence à la suédoise. Aujourd'hui, le projet de loi d'habilitation et le projet de loi ferroviaire tel qu'il est porté par le gouvernement, c'est donner l'ensemble du bien public aux opérateurs privés pour aller concourir pour toucher des subventions publiques.
Oui, mais là on parle du.
On parle
de choses différentes. Parce que pour moi, le bien public, c'est le réseau. Le bien public, c'est le fait qu'on puisse transporter les gens d'un point A à un point B. Ensuite, l'opérateur qui réalise cette mission, peu importe que ça soit la SNCF ou ITGV, c'est la même chose, ou bien de nouveaux concurrents qui apparaîtront, du moment que les passagers sont transportés au coût minime et que ça fonctionne bien, non ?
Éric Beillard.
Aujourd'hui, en Allemagne, un opérateur, quand il veut concourir à un appel d'offres, il doit acheter son matériel, il doit former ses agents. Dans le projet de loi tel qu'il est prévu par le gouvernement, on lui donne le matériel, on lui donne les ateliers de maintenance et on lui transfère le personnel. Donc aujourd'hui, un opérateur privé peut, avec zéro investissement, aller réaliser ses bénéfices, je veux dire, sur les subventions publiques, avec le bien public.
Si je puis me permettre, d'abord, je pense que c'est le cœur du problème, en effet. C'est-à-dire que le problème, c'est moins le statut des cheminots et la condition des cheminots, puisque leur statut reste garanti, qu'un principe qui est l'ouverture à la concurrence. J'ai l'impression que c'est le vrai problème. Et en ce sens...
Mais c'est ça, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement, en fait.
Je trouve qu'en ce sens, c'est le bon débat.
Ouais.
Voilà. Mais deuxièmement, j'aimerais bien comparer ça avec ce qui s'est passé pour les télécoms. Pour les télécoms, on nous a dit un peu la même chose pour France Télécom. On nous a dit on touche pas à France Télécom. Finalement, on a touché à France Télécom. On l'a transformé en société anonyme. Ensuite, effectivement, on l'a privatisé. Je trouve que ce serait tout à fait logique qu'on aille jusque-là. Et on a laissé, effectivement, les réseaux télécoms à disposition des opérateurs, dont Free. Et on a eu exactement le même discours des gens qui disaient, mais regardez, Free bénéficie finalement d'un investissement public alors que lui n'a pas investi dans le matériel et dans la fibre. Ça a été exactement le même débat. Mais au final, au bénéfice
sans oublier la période d'entente sur les prix entre les opérateurs entrants pendant des années sur le dos des consommateurs.
Qui a
été une réalité durable, donc le consommateur a été perdant pendant un certain nombre de temps.
Que faisons de l'antitrust pour que la concurrence soit réelle. Et ensuite, je pense que les gens, aujourd'hui, ils ont des abonnements free parce que c'est moins cher. Et finalement, le gouvernement a considéré, dans ce cas-là, que l'investissement public dans France Télécom, eh bien oui, ensuite, il est ouvert à toutes les compagnies, que ce soit Orange, Free, etc., indépendamment des investissements passés, parce que le bien public, c'est que les gens puissent téléphoner.
Je rappelle qu'à France Télécom, ça s'est pas fait
sans, pour moins cher.
Sans situation dramatique. On a pu suivre ces dernières années aussi les fruits de cette transformation, parce qu'effectivement, quand on a la grande vision macro, et qu'on passe d'un point A à un point B en 20 ans, avec à peu près zéro part d'humanité, les suicides à France Télécom, ça vient pas de nulle part.
Franchement, faites pas un procès d'humanité, parce que moi,
je m'appuie juste sur le raisonnement en disant qu'il y a une vision macroéconomique de l'entreprise qui peut être légitime. En revanche, on ne peut pas oublier qu'à France Télécom, cette transformation, elle a été coûteuse sur le plan humain.
Alors, tout le monde va pouvoir répondre. Éric Meillard, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir répondre également. L'info à 20h11, c'est Édouard Marguier.
La journée de demain à la SNCF ressemblera à celle d'aujourd'hui, deuxième journée de cette grève perlée. La direction prévoit la circulation d'un TGV sur 7 et un tiers des TER. La SNCF qui a comptabilisé 34% de grévistes aujourd'hui. Chiffre de la direction, là encore. Mouvement de colère également chez les étudiants. Plusieurs universités sont bloquées à Paris, à Nice ou encore à Nantes et à Bordeaux. La faculté de droit de Montpellier, quant à elle, a rouvert sous haute surveillance. Elle était fermée depuis 10 jours après la violente évacuation d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre. Dans l'affaire Skripal, l'empoisonnement de l'ancien agent russe. La source du poison reste inconnue, selon un laboratoire militaire britannique. Il n'a pas été capable de prouver que la substance venait de Moscou, comme l'avait pourtant indiqué le gouvernement. Selon le chef de ce laboratoire, Londres s'est basé sur d'autres sources pour désigner la Russie comme responsable de cette attaque. Des athlètes ont accusé 2 entraîneurs de violences sexuelles. Et bien ce soir, 2 enquêtes préliminaires sont ouvertes pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. La première par par le parquet de Créteil, la seconde par le parquet de Fontainebleau. La Fédération française d'athlétisme dit prendre ses affaires très au sérieux. Début des quarts de finale de la Ligue des champions de football tout à l'heure. Deux affiches ce soir, le FC Séville contre le Bayern Munich et le remake de la dernière finale de cette Coupe d'Europe, Juventus-Turin-Real Madrid. Coup d'envoi de ces deux rencontres, 20h45.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette première journée de mobilisation à la SNCF avec plus de 34%, près de 35% de grévistes ce soir. Et donc ça continuera notamment demain avec un TGV sur 8. Catherine Rambert, vous, quand vous voyez justement aujourd'hui cette mobilisation des cheminots qui a toujours été assez forte, hein, même on se souvient du 22 mars dernier, cette mobilisation, c'est plus une mobilisation pour vous sur la SNCF ou pour le service public?
Pour moi, je trouve que c'est une mobilisation un peu fallacieuse. Alors, elle est justifiée parce qu'il y a un vrai, sujet. Il y a le vrai sujet, c'est effectivement l'ouverture à la concurrence, il y a le problème des petites lignes. Et puis, il y a un autre sujet qui est le statut des cheminots. Sur ce point-là, je ne sais pas si les Français arriveraient à se mobiliser, je ne crois pas. En revanche, le fait d'amalgamer tout donne une confusion dans le débat et donne une perte de lisibilité sur la compréhension avant de ce qui se passe. Et moi, je trouve pas très honnête d'enfumer tout ce débat autour du statut du cheminot, parce que quand même, personne n'est dupe aussi. Il y a quand même cette défense-là qui est mise en avant par les cheminots. Néanmoins, pour dire un mot, la CGT, Sudrail, tous ces syndicats ont déjà gagné une grosse bataille. C'est la bataille de la présence médiatique pendant 3 mois. Depuis combien d'années n'avait-on pas entendu parler aussi longtemps des syndicats CGT, Sudrail et des autres? Et on sait très bien que pour vous c'est important parce qu'il y a des élections professionnelles à la rentrée et que là vraisemblablement que le combat soit gagné ou perdu pour vous là, en ce début de printemps et jusqu'à l'été, eh bien vous serez beaucoup plus audible et probablement vous allez gagner des points à la rentrée en septembre. C'est probablement ce que vous voulez aussi.
Éric Meyer, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? C'est vrai qu'il y a une bataille d'opinion, on le voit entre le gouvernement et vous et l'intersyndicale, est-ce que c'est une...
Oui, la bataille d'opinion, elle est là, parce que ça fait maintenant quelques semaines qu'on nous ressort tous les vieux clichés sur la SNCF. Voilà, le SNCF bashing, on l'a pas inventé. Voilà, ça a été trop loin, bien trop loin. C'est pour ça qu'on a vu récemment, maintenant ça fait une quinzaine de jours, le gouvernement reculer sur ces éléments de langage de cheminots privilégiés, etc.
Vous avez vu ce qu'a dit Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche aujourd'hui, il dit « mais moi je les aime les cheminots ». Il l'a dit comme ça, hein, voilà. Donc, oui, il vous aime. Voilà.
Oui, on a le président Pépi qui nous a fait une déclaration d'amour il y a 3 semaines aussi.
Gens vous
aiment. Je veux dire, aujourd'hui on est bien loin de la déclaration d'amour. Mais moi je voulais répondre
à Gaspard
Koenig sur « vous conservez votre statut ». C'est faux. Je veux dire, le statut c'est 12 chapitres. Je veux dire, les annonces de la ministre de vendredi, ça concerne un point qui n'est même pas celui du statut, qui est celui du code du travail, de la conservation du contrat de travail dans le cadre de changement d'employeur, dans le cadre d'une délégation de service public.
D'accord.
Donc aujourd'hui, il est totalement faux de dire que dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, les cheminots conservent leur statut.
Alors, vous avez quel âge, alors, vous avez quel âge?
45 ans.
Et dans combien de temps vous serez à la retraite?
Aujourd'hui...
Je dois
cotiser 41 annuités et demie.
Jusqu'en 2024, les cheminots partent à la retraite à 52 ans.
Non, c'est faux.
C'est l'âge minimum avec les pensions qui sont...
Alors là, je m'assure, madame...
À quel âge partez-vous à la retraite?
Moi, minimum, aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, je pars à la retraite à 58 ans pour ouvrir mes droits à la retraite pleine, madame. Je veux dire, la retraite à 50 ans, ça n'existe plus.
C'est vrai que ça a changé un petit peu. Gaspard Koenig.
Oui, alors, moi, je voudrais revenir sur la question du statut, alors. Et j'aimerais, pour poser le décor, j'entends bien ce que vous me dites, dire que je rêve d'une loi Le Chapelier, d'une loi de 1791, qui avait un énoncé très simple, qui disait « il n'y a plus de statut ». Il n'y a plus, alors à l'époque, on appelait ça des corporations, il n'y a plus de corporations dans l'État. Il n'y a plus d'intérêt intermédiaire entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense également que là où cette réforme est compliquée, c'est que ceux qui la font ont eux-mêmes un statut qui est largement plus privilégié que le vôtre. ce sont des hauts fonctionnaires qui peuvent aller pantoufler dans le privé pendant 10 ans et ensuite retrouver leur siège au Conseil d'État à 5000 euros par mois, tranquillement, en conservant et en accumulant leur droit à la retraite, Et donc, d'un côté, on renforce le statut des hauts fonctionnaires et de l'autre côté, on touche au statut des cheminots. Moi, je pense que tous ces statuts dont la société française fourmille alimentent les tensions parce que chacun se jette à la figure ses droits, ses statuts, suivant l'entreprise dans laquelle il travaille, et je pense qu'il faudrait un jour avoir le courage, et si on le fait un à un, évidemment, chacun a un sentiment d'injustice. Je pense qu'il faudrait un jour avoir le courage de refaire la loi
statut des cheminots, c'est quoi? C'est quoi le statut des cheminots?
Là, je vous pense le statut en général.
Mais c'est intéressant, parce que là, c'est ce qui nous intéresse.
Le statut des cheminots, c'est quoi? Je veux dire, avant, la SNCF, c'était une entreprise à monopole public. Je veux dire, donc, qui n'ouvrait pas droit à avoir une convention collective. Je veux dire, donc, le statut, aujourd'hui, ce n'est que la convention collective, je veux dire, des cheminots de la SNCF.
D'accord, voilà. Mais quand ça passera en SA, du coup, ça deviendra une convention collective.
Je veux dire, aujourd'hui, les négociations, je veux dire, qu'on attend ou qu'ont déjà eu lieu autour du cadrage de la convention collective, créent du moins-disant social, créent du dumping social. Je veux dire, moi, je suis syndicaliste. Je veux dire, moi, je suis pas là pour négocier du moins-disant social pour les salariés. Il faut être clair. Je veux dire, voilà.
Alors, juste une chose. J'entends Boucher Persen, juste pour revenir là-dessus sur aujourd'hui, on le voit sur les Français aussi, où tout le monde est confronté aussi à cette affaire de grève, de mouvement social. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui pour le gouvernement? Parler de bataille d'opinion aujourd'hui. Est-ce qu'il est sûr de la remporter, comme finalement il a remporté l'automne social, on va dire, après la loi travail?
Non, là, c'est évidemment beaucoup plus costaud, comme conflit, hein, évidemment, parce que les cheminots, ce sont des gens quand même qui sont déterminés quand ils se lancent dans un conflit. Donc, on peut, et le gouvernement d'ailleurs s'attend, voire met un peu en scène l'idée que c'est un moment fondateur dans ce conflit dur et que Macron, qui n'est pas comme les autres, Macron qui est un volontariste absolument historique, lui va avancer. Il y a un peu cette dimension-là, sauf qu'effectivement sur la dimension communication, qui est pas la plus intéressante, mais qui fait aussi l'opinion, c'est que ce SNCF bashing, en tout cas cette ou description catastrophiste de l'entreprise ou absolu privilégié que seraient les cheminots, ils ont vu que ça prenait pas. Globalement, c'est les gens qui avaient un problème avec le statut des cheminots, ils l'avaient avant, ils l'ont toujours, mais que voilà, pour remporter la bataille de l'opinion plus largement, le sentiment de l'attachement au service public de la SNCF, aux cheminots et à ce que ça représente pour chacun d'entre nous, les choses sont parfois un peu niaises ou naïves, mais ça n'empêche que ça compte beaucoup. C'est une entreprise qui est pas une entreprise comme une autre, la SNCF. Et aujourd'hui, voilà, on voit qu'ils en sont réduits, non pas à porter ce débat qui est intéressant, ce débat pour le coup de quel peut être le cadre de la mise en concurrence et qui dépasse en plus largement ce que Macron veut faire. Ça, le paquet ferroviaire, il est voté sous Hollande. C'est des discussions qui sont de la fin des années 2010 à l'échelle européenne. Voilà, tous ces débats qu'on traite pas en temps et en heure, on se les prend parfois beaucoup
plus tard. J'aimerais peut-être pour conclure cette partie-là, invoquer les mannes de Pierre Bérégovoy, qui était lui-même cheminot, et qui disait dans des textes dans lesquels je me reconnais complètement, je suis pour la concurrence parce que en tant que socialiste, je suis pour l'égalité des chances et je suis contre l'interventionnisme étatique qui crée des caillots, qui crée des oligopoles et qui empêche aux nouveaux entrants qui eux se démènent, parce que je rappelle que les conducteurs de Ouibus par exemple, ils sont pas sous statut, que les VTC que les VTC eux, on en met 10 000 sur le carreau avec les VTC on en met 10 000 sur le carreau avec la
précarisation du salariat, quoi.
Alors c'est de ça dont on va parler dans un instant. L'info à 20h21, c'est Édouard Marguier.
2700 personnes ont manifesté à Paris pour soutenir les cheminots dans leur combat. Il y a eu 5 interpellations après quelques affrontements avec la police. Des commerces ont été dégradés. D'autres rassemblements ont eu lieu ailleurs en France. La grève qui continuera sur sa lancée demain à la SNCF. La direction prévoit un TGV sur 7 et un tiers des trajets de TER. Sur ce sujet, le Premier ministre Édouard Philippe a dit à l'Assemblée nationale entendre autant les grévistes que ceux qui veulent aller travailler. Des tensions toujours à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Un Palestinien de 25 ans a été tué par l'armée israélienne après des affrontements dans le centre de l'enclave. 17 autres Palestiniens ont été tués depuis vendredi. Des milliers de personnes protestent un mois et demi avant l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Jérusalem reconnue comme capitale d'Israël par Donald Trump. Les réserves de sang sont au plus bas partout en France. Si vous êtes prêt à donner, mobilisez-vous. Le responsable de la collecte pour l'établissement français du sang dit être très inquiet sur France Info. 75 000 poches de sang sont disponibles alors qu'il en faudrait 100 000 à cette époque de l'année. Le Piton de la Fournaise se réveille pour la première fois de l'année. Le volcan est entré en éruption sur l'île de la Réunion. La lave coule depuis 11h ce matin, sans danger pour les habitants. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. 3 éruptions, rien que l'an dernier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, exemple du face-à-face aujourd'hui assez tendu au sommet de l'État, hein, puisque bien sûr il y a eu de nombreux témoignages usagers bloqués aujourd'hui ou ayant pris leurs précautions. Il y a eu des témoignages sur, il y a eu des sujets pardon sur le succès des plateformes de covoiturage et les bus affichant complet, mais aussi eh bien entendre finalement ceux qui s'affrontent. Et on va commencer, ça a commencé tôt ce matin avec le leader de la CGT, Philippe Martinez.
Chaque fois qu'il y a un problème, on dit non, c'est de votre faute si les usagers sont dans cet état-là, qu'ils discutent, qu'ils écoutent. Pourquoi à chaque fois ils renvoient la responsabilité des problèmes à ceux qui les contestent et qui proposent d'autres solutions? Qui prend les décisions? Qui n'écoute pas? C'est bien le président de la République et son gouvernement, non? Je pense que les cheminots n'ont pas à avoir honte de bloquer tout le pays.
Voilà, Philippe Martinez, ce matin sur France Inter, et en début d'après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale, lui a répondu. On l'écoute, Édouard Philippe.
Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Et aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Que les millions de Français qui veulent se déplacer doivent également être entendus. Et je voudrais, permettez-moi de le dire, les saluer, car ils ont des jours difficiles devant eux, la grève ayant été organisée pour porter un impact maximal aux usagers et aux clients de la SNCF.
Alors Marion Mourglacé, appliquer donc le macronisme, en même temps on dit les grévistes ont le droit de manifester et les usagers souffrent aussi de la grève.
On le sent un peu embêté, Édouard Philippe, parce que on a vu dans le journal du dimanche, il y avait un sondage qui montrait que les Français sont de plus en plus en soutien du mouvement des grévistes. Et en même temps, Édouard Philippe ne peut pas non plus cautionner totalement le fait qu'il y ait les Français dans la rue. Mais vous parlez de communication du gouvernement et de l'exécutif. Elle est en train de changer. Et même dans l'entourage d'Emmanuel Macron, ils sont en train de dire « Bon, on a mal pris le dossier ». Et c'est vrai qu'à force de taper sur les cheminots, ils n'ont parlé que de ça, alors que le texte parle de bien d'autres sujets. Donc, ils sont un peu embêtés.
Une dernière chose tout de même, Éric Meyer, donc ça peut durer, en effet, hein, normalement jusqu'au 28 juin, en tout cas, c'est le calendrier que vous avez fixé avec l'intersyndicale. Le gouvernement parle donc du statut de cheminot, d'ouverture à la concurrence, mais pas de privatisation, ils insistent là-dessus. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
La ficelle est grosse, je veux dire, pour toutes les entreprises publiques. On a eu des promesses de capitaux publics, etc. Là, on nous parle de société nationale à capitaux publics non cessibles. Mais on sait très bien que dans le cadre d'une reprise de la dette ou vu l'état du réseau, ça nécessitera des investissements. Donc, une ouverture de capital est possible dans les années possibles. Donc, une privatisation. Il faut pas se voiler la face.
Sachant que, enfin, j'ai lu cette phrase aujourd'hui, je trouvais que c'était intéressant de dire que la SNCF, elle a été utilisée pendant des années comme un outil, en premier lieu, d'aménagement du territoire, voire de clientélisme par certains élus. On voit qu'effectivement, la carte du TGV, hein, qui est utilisée quand même par une minorité de Français, mais qui coûte cher, et du coup, je me dis, il y a quand même une forme d'injustice à l'égard de cette entreprise. C'est-à-dire que pendant des années, la puissance publique ou joue pas son rôle d'actionnaire en tant que tel, ou utilise en dévoyant un peu ce que peut être une forme de rationalité dans la conduite de cette entreprise. Et ce qui veut rien dire sur le travail des gens, mais que formellement, les milliards qui ont été mis sur la table, ils ont pas été mis sur là où il faudrait. Ils ont parfois servi des intérêts politiques qui étaient un peu absurdes. Et qu'à l'arrivée, cette dette qui s'est constituée, aujourd'hui, elle est un fardeau pour l'entreprise comme pour le pays sûrement. Mais je trouve qu'on le fait payer beaucoup à l'entreprise.
Vos propos font la démonstration de la légitimité de la privatisation et de l'ouverture à la
concurrence. Non, d'une bonne conduite.
Mais ça n'existe
du bien
pas.
Public. Si,
mais
ça peut exister.
Excusez-moi.
Vous avez une part d'utopie dans votre discours, laissez-nous avoir la nôtre quand même.
Enfin, excusez-moi, mais
le retour
vous
en 1791 n'est pas forcément
la perspective
la plus crédible.
Vous avez quand même deux siècles d'histoire derrière vous où constamment les entreprises publiques ont été capturées par le régulateur. Ça s'appelle comme ça, c'est interne économique. Maintenant, la capture.
Il y a beaucoup
toujours, évidemment, les intérêts politiques les moins avouables qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. ressort.
Si la captation n'était que publique,
et que donc, moi, je suis persuadé qu'avec un système plus ouvert, vous auriez des lignes de train aujourd'hui qui seraient plus régionales. Vous auriez un réseau qui aurait été mieux entretenu. Voilà.
Oui, mais non, parce que
et
vous savez,
clairement, le modèle actuel n'est pas satisfaisant.
On est sur le service public et on doit arriver à l'heure, nous aussi, vous savez, voilà. Donc c'est pour ça.
Maintenant, les gens prennent EasyJet. Mais Air France n'a pas cessé d'exister pour autant.
Merci, Gaspard Koenig. Je dois remercier Éric Meyer. Merci beaucoup d'être passé ce soir, secrétaire fédéral de Sudrail. Merci d'être passé aux Informés de France Info. Nous, on va continuer à parler justement des mouvements sociaux dans un instant dans les Informés de France Info.
Avec Business France.
Ma PME se développe beaucoup en Afrique et j'ai recruté des VIE. À l'export, il est important de trouver des jeunes avec des profils internationaux bien ciblés. C'est pourquoi je me suis tourné vers Business France. Et en plus, il s'occupe de la présélection des candidats et de tous les aspects administratifs. En 3 ans, j'ai eu 5 volontaires internationaux en entreprise et 4 travaillent encore avec nous. Une belle histoire.
Renseignez-vous 0810 659 659, coût d'un appel local ou export.businessfrance.fr.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on trouve des tutos pour tout. Des tutos pour faire les devoirs aux enfants sous hypnose, pour dompter un poisson rouge, pour tricoter un bonnet de bain. Mais alors si je pouvais trouver LE tuto pour profiter de plein de gigas à moindre prix, là, ça serait vraiment utile.
Ne cherchez plus. Chez SFR jusqu'au 9 avril, le forfait Power 50 Go est à seulement 10€ par mois pendant un an, puis 24€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Ce sera encore capricieux. Demain, du vent partout. Des frontières du nord vers le massif central, la vallée du Rhône et le Languedoc, il pleuvra bien le matin. Un orage possible. L'après-midi, des averses orageuses entrecoupées d'éclaircies. Entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, les averses se multiplieront l'après-midi. Ça n'empêchera pas quelques bons moments de soleil. Même chose sur le nord-ouest, Poitou-Charentes, la région parisienne, le Pas-de-Calais. Les éclaircies seront plus larges sur la Bretagne, les averses moins nombreuses. Et puis dans le sud-ouest, de belles éclaircies. Si le matin, elles se réduiront l'après-midi au profit d'averses orageuses. Côté thermomètre, 7 à 13 degrés le matin. L'après-midi, 12 à 16 degrés au nord, 12 à Brest, 15 à Paris et Besançon, 15 à 20 degrés dans le sud, 17 à Bordeaux et Montélimar. Et les 20 degrés, on les trouvera du côté de Toulouse.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335€ en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Frédéric Beignada, bonsoir.
Bonsoir, la bataille du rail a commencé avec d'importantes perturbations aujourd'hui à la SNCF où la grève des cheminots a massivement été suivie. Plus de 3/4 des conducteurs ont répondu à l'appel des syndicats. Résultat, peu ou pas de trains et des milliers d'usagers en souffrance. Et ce sera la même chose pour demain avec une moyenne d'un TGV sur 8, un TER sur 5 et aucun train sur certaines liaisons du RER. La direction de la SNCF annonce donc un ton de son côté, un taux de participation de 34%. À Paris, à la gare du Nord, les cheminots se sont réunis en assemblée générale tout à l'heure. Guillaume Gavenne.
Une assemblée générale plutôt suivie et sans grande surprise, la grève a été reconduite ce midi.
Qui est pour ? Plein. Qui est contre ? Moi, je vois personne. La grève est donc reconduite à l'unanimité jusqu'à demain.
La grève donc est une colère légitime, estime Fabien Dumas, secrétaire fédéral Sud, qui n'en peut plus des réunions au ministère des Transports.
On a participé à une vingtaine de réunions, il n'y a pas eu une virgule, il n'y a pas eu un bougé. L'État nous dit, on prendra toute responsabilité sur la dette. Ben, nous, on voit rien d'écrit, donc on demande des garanties sur la dette, on les a pas. On demande des garanties sur le statut, on les a pas. Donc voilà, toutes ces inquiétudes génèrent de la colère, génèrent de l'insatisfaction. Et encore une fois, la colère, c'est mobilisateur.
La colère des grévistes est une grève légitime qui va au-delà des revendications des cheminots, estime pour sa part Louis, syndiqué à la CGT.
C'est bien un sujet de société. Nous, on défend le service public ferroviaire, comme on défend le service public hospitalier, l'éducation nationale. Enfin voilà, et la réalité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, tous les pans du service public sont attaqués.
Après avoir voté la reconduction du mouvement pour demain, les manifestants ont ensuite décidé de se rendre en cortège vers la gare Saint-Lazare, point de convergence des cheminots parisiens aujourd'hui.
Dans les airs, 75% des vols ont été assurés aujourd'hui à Air France. On ira au point de rupture, mettant en garde la CGT. Deux nouvelles journées d'action sont prévues les 10 et 11 avril prochains. Et comme si cela ne suffisait pas à la grève d'Air France, une défaillance technique d'un des systèmes d'eurocontrôle à l'origine d'annulations et de retards dans le ciel européen. Tous les plans de vol ont été annulés à la mi-journée. Il a fallu les redéposer. Environ 15 000 vols ont été impactés, notamment à Amsterdam, Bruxelles, Londres ou Helsinki. Une grève accompagnée de nombreuses manifestations un peu partout à travers le pays. 190 000 manifestants à l'appel de Sud et de forces ouvrières et quelques incidents signalés à Paris. Le gouvernement lui promet de tenir bon. À l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a dit entendre autant les grévistes que ceux qui veulent aller travailler. Et il a salué les usagers de la SNCF qui ont des jours difficiles devant eux.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont rentrés à l'heure, hein, à la gare de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Marion Mourgue du Figaro, Gaspard Koenig, président du think tank Génération Libre, également Jonathan Boucher-Petersen, pardon, de Libération, et Catherine Rambert, journaliste de Son État et de Women Strategy for Success. On parlait bien sûr du mouvement de mobilisation à la SNCF, hein, car rassemblé près de 34% de grévistes. Mais forcément, un mouvement de grève a des conséquences politiques et chacun y va de sa sommation contre le gouvernement. La gauche essaye de faire bloc hein, derrière les cheminots. La droite, elle, accuse le gouvernement de se calquer sur l'agenda des grévistes. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob.
Écoutez, nous nous demandons maintenant de la clarté. Le pays en passe d'être bloqué avec cette grève. Nous demandons le retrait pur et simple des ordonnances de façon à travailler sur un texte à cahier ouvert. Que le gouvernement nous dise quelle est sa réforme. On demande à M. Macron un peu de courage. Dites-nous quelle est votre réforme.
Voilà, Christian Jacob, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Jonathan Boucher-Petersen, tout le monde essaye de se refaire un petit peu la cerise pour parler.
Non, mais c'est du Christian Jacob, donc ça n'empêche que c'est pas complètement faux ce qu'il dit. Ce mot ordonnance, quand ils l'ont dégainé, il était encore très connoté des ordonnances loi travail et d'une idée de on va vite. Là, l'Élysée, ils essayent d'expliquer qu'en fait, Castaner l'a dit aussi, c'est-à-dire que c'était un outil de concertation. Ils se disent si on met pas tout sur la table et qu'on pose juste le cadre, ça montre bien qu'il y a des choses à discuter. Sauf qu'on entendait Sud puis les autres syndicats dire que voilà, le problème c'est que il y a eu des tonnes de réunions, plus ou moins de pas forcément de calinothérapie, parfois c'était un peu conflictuel, mais absolument stérile sur le fond, et qu'aujourd'hui, ils sont bien en peine de dire quel est concrètement l'objectif cible, comme on dit, du gouvernement. C'était déjà un peu le cas sur la loi travail, où ça floutait comme ça. Le problème, c'est que si les syndicats ne comprennent pas, c'est aussi pour ça que les Français ne comprennent pas. C'est qu'au bout d'un moment, le président jupitérien, il faut qu'il mette un peu
sur la table. Ils empêchaient un petit peu aussi par arrogance, en utilisant en plus le terme d'ordonnance, alors qu'elles n'avaient pas été annoncées dans la campagne. C'était aussi les parlementaires qui montaient au créneau, des parlementaires qui peuvent être pour la réforme. Donc c'était aussi créer une autre opposition au sein de l'opposition. Donc là, le gouvernement a aussi compris qu'il fallait un peu ménager tous les parlementaires.
Juste une chose, normalement, est-ce que chez les Républicains, aujourd'hui, on serait prêt à voter, justement, cette réforme ? Est-ce qu'elle leur plaît, cette réforme ?
Alors, les Républicains sont divisés. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Républicains qui seraient plutôt pour voter cette réforme et d'autres qui sont en opposition parce que ça ne défend pas assez les petites lignes.
Réformette aussi. Voilà. Calmels, Virginie Calmels. Il y a déjà bras droit libéral de
Au sein
Wauquiez,
des vice-présidents.
C'est la carte de visite, en tout cas.
Au sein des vice-présidents et du président des Républicains, il y a des positions très différentes. Donc, ça se retrouve dans tous les groupes. Ouais.
Catherine Rambert, quand vous entendez justement ces hommes politiques, Christian Jacob, de son côté, on voit aussi le Parti Socialiste, alors qu'il s'est fait, Olivier Faure, qui quand même s'est fait exfiltrer d'une manifestation le 22 mars dernier, parce que Jonathan Boucher-Petersen l'a répété tout à l'heure, c'est sous François Hollande que c'est rentré la privatisation, l'ouverture à la concurrence, pardon, de la SNCF. Il y a une possibilité pour eux de coller à ce mouvement, de se refaire un petit peu une santé.
Je ne sais pas s'il y a une possibilité pour eux de coller à ce mouvement. C'est sûr qu'ils vont forcément essayer. Mais ce qui est intéressant là aussi, moi je pense que le gouvernement, ils ont joué aussi beaucoup. Ils ont pêché par arrogance un petit peu dans l'euphorie d'élection. Les lois sont passées, ils se sont dit on continue avec la SNCF. Et c'est vraiment la dualité de l'ancien monde et du nouveau monde, de Macron face à Martinez, de l'exécutif face à la CGT, de la réforme face au statu quo, des Gaulois face à l'Europe. Enfin, j'ai failli dire la Gaule, pardonnez-moi, parce que je trouve que Martinez ressemble à Versailles historique sur son... en tout cas, voilà. Donc, ils ont joué, je pense, moi, ma lecture à moi un peu plus d'un point de vue image est un péché d'arrogance. France parce qu'ils se sont dit, on a élu un jeune président qui porte la réforme, les Français ont voulu ça, et on y va, et on oublie les détails, et là, ils se heurtent à quelques petits détails quand même qui font souci.
Gaspard Koenig.
Je voudrais quand même rappeler que si on décide de passer par l'ordonnance, Dieu sait que je suis pour le parlementarisme, mais en l'occurrence, cette loi a déjà été votée quand la France a accepté le quatrième paquet ferroviaire et que le Parlement a endossé la directive bruxelloise.
Vous dites par l'Europe, en fait, c'est ça?
Non, mais par l'Europe, et ensuite c'est validé par les parlements nationaux. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut aussi un peu suivre l'évolution de la démocratie, et quand on s'engage, quand on est dans un processus européen, qu'on s'est engagé et qu'on a dit oui, que le Parlement a voté, etc., on s'est déjà engagé.
Oui, mais n'empêche qu'il fallait la réexpliquer aux Français, ça, vous avez raison. Mais les Français, ça, ils savent pas, ils l'ont oublié, il fallait tout il y a tout un travail de pédagogie qui a pas été fait, vous avez raison. Mais là, le gouvernement, ça, il le savait, mais il a oublié de réexpliquer, c'est la logique, ils ont péché par arrogance.
Ils
ont fait un défaut de pédagogie, selon moi.
Est-ce que sur l'Europe, une nouvelle fois, on met beaucoup chose sur le dos de l'Europe aussi, Jonathan Boucher-Peterson?
Non, mais l'Europe, c'est des chefs d'État qui sont mis d'accord, pour le coup. Donc, c'est les options politiques de l'époque qui, il y avait une majorité pour décider ça. Donc, simplement, on se rend compte souvent, je le disais tout à l'heure, mais qu'on s'y intéresse trop tard, quoi. Parce que pour le coup, ces sujets à Bruxelles, enfin, ils ont été discutés, ils ont fait l'objet de débats. Voilà. Donc, c'est aussi les, il y a quand même une part de négociation. Enfin, on peut pas dire il y a des choses à négocier et puis dire voilà, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que le cadre général, on sait ce qu'il est. On voit d'ailleurs sur les petites lignes, voilà, cette idée de repousser l'ouverture à la concurrence en disant que c'est un bien protégé. Il y a de la marge de manœuvre, ou sinon la puissance publique doit baisser d'un ton s'ils ont rien à mettre sur la table.
Il y a eu le texte européen, mais il y a aussi eu le rapport Spinetta. Donc le débat est aussi venu en France et il n'est pas qu'européen. Et là,
deux petites choses politiques. On a vu aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon ne pas être très bien accueilli dans la manifestation
pas sûr,
hein, de Sudrail.
C'est assez contesté, ça.
Ah bah, on a vu tout de même les images. On a vu les images clair, tout de même tout à l'heure.
Moi, j'ai vu les cris d'orfraie de Jean-Luc Mélenchon, ça fait forcément sa porte.
Et donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, Rick Meyer, donc de Sudrail, moi, m'expliquait, en gros, il y a les syndicats, il y a la politique, personne ne veut se mélanger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité pour vous, Marion Manque, de récupération politique de ce mouvement? On est vraiment dans le purement syndical.
Si, ça peut arriver. Après, le mouvement est en train de commencer. Donc là, les syndicats ont retrouvé une place. C'est la première fois depuis le début du quinquennat. Et finalement, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron a un opposant un peu plus ferme que d'habitude.
Ouais.
Mais ça peut prendre politiquement.
Il a plus vraiment d'opposants politiques en ce moment qui sont un petit peu dans les choux, même si c'est ok, Mélenchon et là s'agite et tout. Et effectivement, l'opposition syndicale va jouer un rôle intéressant. Et justement, c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'ils n'en veulent pas des syndicats politiques.
C'est assez classique,
mais comme la politique, ils sont tellement tous affaiblis qu'ils en veulent encore moins. Voilà.
Simplement, il y a chaque chose en son temps. Enfin, pour le coup, il y aura d'autant plus une transcription électorale ou politique que ce mouvement est une réussite. Après, c'est clairement dans un mouvement de lutte un peu dur, donc ça a plus de raisons de profiter à ceux qui portent cette parole un peu plus fracassante. Donc évidemment, plus Jean-Luc Mélenchon ou un Benoît Hamon dans un deuxième temps. En tout cas, évidemment pas le Parti Socialiste tel qu'il est, parce qu'Olivier Faure, il a tout à construire, il a aucune raison de récolter les fruits de quoi que ce soit tout de suite. Quoi.
Ouais. Et cela dit, on parle dans le vide, hein, parce que c'est le premier jour, 3 mois, c'est long, l'histoire va beaucoup changer d'ici là. Hein.
C'est ça, donc, c'est d'ailleurs, ça continue demain, faut déjà le dire. Allez, l'info à 20h40, Edouard Marié.
Les cheminots resteront mobilisés demain pour le deuxième jour de cette grève perlée, et sur les rails, la situation sera quasiment la même. Un TGV sur 7 circulera, comme un tiers des TER selon la direction, qui a comptabilisé 34% de grévistes aujourd'hui. Une lutte en appelle une autre. Des étudiants en colère bloquent plusieurs universités à Paris, Nice, Nantes ou encore Bordeaux. La faculté de droit de Montpellier, quant à elle, a rouvert sous haute surveillance. Elle était restée fermée pendant 10 jours après la violente évacuation d'étudiants. D'où vient la substance qui a empoisonné l'ancien agent russe Sergueï Skripal? Un laboratoire militaire britannique n'a pas réussi à prouver qu'elle est originaire de Moscou. Le gouvernement l'avait pourtant assuré. Selon le chef du laboratoire, Londres s'est basé sur d'autres sources pour désigner la Russie comme responsable de cette attaque. Carles Puigdemont pourrait être extradé vers l'Espagne. Le parquet de l'État régional allemand, le Schleswig-Holstein, s'est dit favorable. Aujourd'hui, il a validé l'accusation de rébellion avancée par Madrid. Le sort de l'ancien président catalan est maintenant entre les mains du tribunal de Schleswig, qui est compétent dans cette affaire. Une affiche au goût de revanche dans 5 minutes en Ligue des champions de football. Juventus Turin-Real Madrid, c'était celle de la finale l'an dernier. Autre quart de finale aller, le FC Séville-Bayern Munich. Coup d'envoi donc à 20h45.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors vous le savez, l'état civil complet du président de la République, c'est Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Et en fait, c'est un pseudonyme puisque son véritable état civil, c'est Emmanuel je kiffe réforme Macron, bah, parce que c'est un peu moins élégant, en fait, on peut dire ça. Mais on le voit depuis son accession à l'Élysée, le chef de l'État sort réforme sur réforme, épuisant ses troupes et faisant tirer la langue aux journalistes dont certains demandent grâce. Réformer vite, pourquoi pas, mais ça veut aussi dire mettre en colère plus vite. Et oui, et aujourd'hui, en plus des cheminots, on voit donc les étudiants, Air France, les éboueurs, le secteur de l'énergie. La semaine dernière, c'était les professionnels de la justice, sans parler des retraités, des EHPAD. En janvier, le personnel pénitentiaire. Bref, il semble y avoir une France qui grogne et une autre qui attend. Et souvenez-vous, Emmanuel Macron avait tenté de théoriser cette chose. C'était cet été, en déplacement à Bucarest. C'est un petit peu l'instant archive, Emmanuel Macron.
Les Françaises et les Français détestent les réformes. Puis dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va. Et il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Mais pour mener un projet plus grand que soi, la France n'est elle-même que quand elle mène des combats qui sont plus grands qu'elle.
Allez, Emmanuel Macron, cet été à Bucarest. Gaspard Kini, vous pensez ça, justement, quand on voit aujourd'hui le nombre de chantiers entamés par Emmanuel Macron, la France, difficile à réformer?
D'abord, j'aime pas beaucoup quand on parle de peuple comme si un peuple avait une psychologie propre. C'est des individus qui s'associent entre eux dans un contrat politique. Donc le peuple, ça veut pas dire grand-chose. Et deuxièmement, ce qu'il dit est intéressant sur le fait qu'il faut avoir une sorte de projet intellectuel qui ensuite, c'est-à-dire un soubassement idéologique pour la réforme. Et quand il n'y a pas d'idée, eh bien, les mesures concrètes, on se bat sur des chiffres sans voir la direction. Et en ce sens, je trouve que En Marche a énormément péché. En Marche a refusé de se doter d'une structure doctrinale. Mmh. C'est pas le nouveau président du parti, Castaner.
Christophe Castaner.
Qui est en train de faire ça, puisqu'il a l'intention explicite de transformer En Marche en une sorte de vague association de société civile.
Sorte d'ONG, voilà.
Des kits citoyens où les gens vont pouvoir défendre les Flamands Roses, défendre le Mont-Saint-Michel, etc. Et que le fait de ne pas avoir de référence intellectuelle, commence à manquer profondément à En Marche. Et on voit que de l'autre côté, les insoumis en ont. La droite conservatrice souverainiste en a. Il y a plein de philosophes là-dedans et ça débat, etc. Et donc, ils vont arriver avec un projet clair sur qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'individu, qu'est-ce que l'avenir, qu'est-ce que la bioéthique. Alors que là, on est toujours dans un flou qui commence justement à être contre-productif.
Jonathan Boucher-Peterson, est-ce que le fait justement qu'Emmanuel Macron se dise et de droite et de gauche, c'est plus facile pour faire passer les réformes ou pas?
Non, je pense que c'est plus l'effondrement du château de cartes institutionnel dont il a été ou le déclencheur peut-être plus que la cause réelle. Mais c'est-à-dire qu'il est arrivé dans un monde qui était déjà mort. Effectivement, il a émergé. Mais c'est vrai que c'est une vraie déception, je pense, même pour beaucoup de gens qui ont voté pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait au moins le présupposé qu'il était complexe, qu'il était un peu intello, qu'il avait une vision et une capacité à l'exprimer. Et effectivement, on a beaucoup de choses sur la table, mais vraiment pas ça. L'imagination, la capacité à dire « je suis le monde nouveau, j'incarne une génération qui n'est pas la même ». Alors 90% des arguments pour justifier ce qu'il fait, c'est « regardez comme je fais les choses que tout le monde voulait faire depuis 20 ans ». Donc, enfin, au moment, on peut pas être l'homme nouveau et l'accoucheur des réformes d'hier. Quoi. Donc il y a cette dualité quand même qui est un peu permanente. Et puis il y a quand même un réformable, je sais pas, enfin pour le coup, si on prend les 30 dernières années, des transformations importantes conduites dans le pays, il y en a eu. En revanche, cette espèce d'équation que réforme égale progrès, ça, je pense que oui, les Français en ont un peu soupé.
Ouais, c'est ça, Catherine Rambert, est-ce qu'il y a trop de réformes aujourd'hui?
Moi, je suis pas tellement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je trouve que la réputation des Français irréformables, on a surtout eu des dirigeants qui étaient complètement hermétiques à la réforme, qui n'avaient pas le courage de réformer. Le monde, il a aussi changé. Ce qu'amène Macron, c'est que jusqu'à présent, les présidents, les élus qu'on avait, ils avaient derrière eux 30 ans de vie politique, des milliers de mains serrées, la tape au cul des vaches. Et il prenait aucune décision pour ne pas contrarier les corporatismes des électeurs. Lui, il arrive tout frais. On en pense qu'on veut. En tout cas, il a été élu. Il vient avec toute une autre politique. C'est vrai qu'il n'y a pas un terreau intellectuel aussi fort que pour l'instant que les autres. Je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, ce discours de France réformable, moi, je ne sais pas si c'est les Français qui sont réformables ou si c'est jusqu'à présent nos dirigeants qui ne voulaient pas réformer par manque de courage. Et bien, certes, on a eu des réformes depuis quelques années, beaucoup moins que les autres pays européens. Et c'est vrai qu'on a un recul par rapport à eux. Alors, je ne sais pas si sa méthode est la bonne. je dis pas ça pour le soutenir, je dis juste que c'est espèce, je suis d'accord avec vous, catégoriser les Français en irréformables, moi ça m'énerve, je suis pas sûr.
J'attends Monsieur Petersen.
Non, parce que je me disais, on relisait un discours de Nicolas Sarkozy, enfin c'était dans un article qui était consacré au sujet, je vous cache pas.
Vous avez le droit d'y aller ce que vous voulez.
Un discours de Nicolas Sarkozy en 2007.
Chacun s'endort comme il
peut. Non, parce qu'on tombe pas toujours sur les discours de Nicolas Sarkozy, enfin c'est pas ce qui sort en premier sur Google en ce moment en tout cas. Il a d'autres actualités. Non, mais en 2007, on voyait cette arrivée au pouvoir, en gros, avec après 20 ans d'immobilisme, c'était le Chirac, qui était en fin de cycle, en fin de règne. Et c'est quasiment les mêmes mots, quoi, sur le côté rien ne m'empêchera d'aller au bout de la démarche transformatrice de mon programme. Donc le même discours sur les, même s'il n'y a ce pas de deux avec la CGT au début du quinquennat de Sarkozy,
ouais,
mais ce discours sur les corps intermédiaires, cette idée que j'avance tout seul, j'avance vite parce que j'ai personne avec qui négocier. À l'arrivée, ça se heurte à un mur qui s'appelle la réalité, hein, quand même, on va le sentir.
Marion Morgan.
Et la réalité, elle arrive de plus en plus vite. Parce que là, le discours d'Emmanuel Macron, c'est au mois d'août, on le sent encore très en forme, flamboyant, etc. Là, on est déjà presque 8-9 mois après son élection et le climat a déjà changé en France. C'est-à-dire que les Français sont plutôt pour les réformes, puisqu'il c'était assez clair pendant la campagne présidentielle, ouais. Tous les candidats le défendaient. Et là, déjà, il y a une superposition de mouvements, ça devient un peu plus compliqué.
Ouais, et puis la France, c'est une période de deuil. Vous savez, il y a une courbe du deuil, on sait, voilà, il y a dans la courbe de deuil, après le choc du décès, de la tristesse, on est dans la phase de tristesse où il faut renoncer. Et la France, elle sait qu'elle doit se réformer, elle sait quand même qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait, qu'elle a raté des virages. Et il y a cette espèce d'hyper résistance, comme une difficulté à dire adieu à une histoire qui se tourne. Et je pense qu'on en est là et que ça bloque pour ça, que ça craque un peu pour ça, que les Français, ils ont peur de ça en ce moment.
Oui, Gaspard Koenig, vous pensez voilà, que les Français aussi ont peur de lâcher ça? En même temps, tout le monde n'est pas pour ces réformes particulièrement aussi, mais est-ce que vous pensez que les Français se disent on peut soutenir Emmanuel Macron, pas jusqu'au bout?
C'est une phrase de Tocqueville, non? Il n'y a pas de pire moment pour un mauvais gouvernement que celui où il commence à essayer de se réformer. Et il pensait notamment, je crois, à Turgot, dont on a réédité les œuvres récemment. Il avait justement essayé de faire des réformes, mais sans aller jusqu'au bout, sans tout supprimer, en s'attaquant à certaines personnes, mais pas à d'autres. Et puis finalement, on l'avait révoqué. Et puis 15 ans après, c'est les révolutionnaires qui les avaient faites.
Donc finalement, aujourd'hui, vous dites...
Non mais
peut-être, mais attendez, je ne sais pas, vous êtes un prophète, peut-être,
très
je ne sais
plongé
pas.
Dans le 18e.
Mais, oui, très très en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, ça veut dire quoi? Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a raison d'entamer ce rapport de force pour faire passer ces réformes?
D'abord, il y a des réformes discrètes qui se passent très bien. Par exemple, la réforme de la justice, dont on parle pas trop, est assez remarquable. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir
Vous avez beaucoup d'avocats qui la critiquent.
Alors sur certains aspects, mais c'est intéressant de voir quand même que le gouvernement actuel est presque enfin en train de faire la même chose que voulait faire Taubira, mais simplement de manière beaucoup plus discrète, avec une rhétorique tout à fait différente. Alors que si vous prenez les mesures concrètes, bon, moi j'ai suivi des trucs sur les prisons et sur l'installation des prisons ouvertes, c'est assez remarquable, c'est des trucs assez radicaux, des changements. Et c'est vrai que sur l'éducation, sur la justice, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant.
Mais on vous dit en même temps, il y aura moins de tribunaux peut-être aussi, c'est ça aussi, on fera plus de kilomètres pour aller au tribunal, ça va être difficile.
Oui, mais ça, les gens seront mieux servis. C'est comme les hôpitaux, si vous voulez. Quand vous les intégrez les services, les hôpitaux plus gros, il y a moins de taux de décès que les petits hôpitaux de campagne qui sont sympathiques, qui sont tout proches, mais où les gens meurent parce qu'il n'y a pas tout le matériel à disposition, il n'y a pas de connexion entre les différents services.
Il y a des problèmes d'accueil aux urgences et tout, c'est pas si simple.
Je rappelle qu'il y a eu un procès en comparution immédiate avec visioconférence interposée. Voilà, il peut y avoir aussi des...
Pourquoi pas?
Pourquoi pas.
Et d'ailleurs, on parle de transport, mais il va falloir préparer aussi les nouveaux transports, il va falloir préparer les voitures autonomes, les drones, etc. Parce que les conducteurs de trains, je suis désolé, mais il n'y en aura plus beaucoup dans 10 ans. Ça va être des trains autonomes. On commence déjà à faire des trains autonomes aux Pays-Bas.
Il y a des expérimentations un peu partout en France.
Il y a déjà des métros qui sont autonomes, donc c'est vrai qu'il va falloir aussi se projeter. On ne peut pas garder des cheminots sous statut.
On n'est plus à la machine à vapeur non plus, des expérimentations sur les nouveaux trains, sur les choses comme ça.
Parce que là, on n'est pas sur le 19e, la Gaspard. On est au 18e, c'est pour ça, faites attention. Allez, on va continuer à parler de l'info à 20h50, Édouard Marguier.
Ils ont manifesté leur soutien aux cheminots en grève. Plusieurs rassemblements en France, il y avait 500 de participants à Tours, 300 à Lille et 200 à Bordeaux, 2700 personnes à Paris où il y a eu quelques incidents, des commerces dégradés, 5 personnes ont été interpellées. La grève qui continuera sur sa lancée demain à la SNCF, deuxième journée de cette grève perlée. La direction prévoit un TGV sur 7 et un tiers des trajets de TER. Le Premier ministre Édouard Philippe a dit à l'Assemblée nationale entendre autant les grévistes que ceux qui veulent aller travailler. Des milliers de vols retardés en Europe, un vol sur deux précisément à cause d'une simple panne informatique. Le système de gestion du trafic aérien Eurocontrol a subi une défaillance. Tous les plans de vol déposés par les compagnies ont été perdus. Le nombre d'autorisations de décollage est donc limité. La panne sera réparée dans la soirée. Les donneurs de sang et ceux qui n'ont jamais donné sont appelés à se mobiliser parce que les réserves sont au plus bas. 75 000 poches disponibles au lieu des 100 000 nécessaires à cette époque de l'année, selon le responsable de la collecte à l'établissement français du sang qui avoue, sur France Info, être très inquiet. Elle est détectée pour la première fois en France sur des oliviers, la bactérie Xylella fastidiosa. Elle en a décimé des milliers en Italie. La filière de l'oléiculture sur l'île de Beauté est très inquiète. Elle représente 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en Corse. Des foyers de cette bactérie avaient été découverts en PACA et sur l'île de Beauté par le passé, mais jamais encore sur des oliviers.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Aujourd'hui, il y a eu un mouvement social, je ne sais pas si vous le savez, voilà, sur notamment la SNCF, hein, et puis il y en a eu d'autres, hein, et, il y a eu notamment également les éboueurs, il y a les étudiants, il y a aussi le secteur de l'énergie. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment qui s'allument, qui s'éteignent, qui restent en sommeil, puis reviennent au devant de l'actualité. Est-ce que ça signifie aussi, Marion Mourgue, un pays un peu fiévreux aussi véritablement en ce moment, un pays dont on parlait fracturé avant la campagne présidentielle et qui aujourd'hui est toujours là? C'est-à-dire que ce ne sont pas des mouvements peut-être avec des manifestations immenses, mais qui sont toujours présents.
Oui, il y a une superposition de mouvements. Déjà, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron, il a été élu avec un quart des Français. Donc, il y a forcément
24%.
Oui. Donc, il y a le reste des Français qui peut continuer de s'interroger. Et puis, il y a des inquiétudes qui sont sur le pouvoir d'achat, sur le terrorisme, etc., qui peuvent expliquer aussi qu'il y ait ce sentiment fiévreux, comme vous le disiez. Oui.
Jonathan Boucher-Peterson, on voit un gouvernement qui ne veut pas reculer. On le voit, hein, sur tous les sujets. Souvent, voilà, on va y aller. Sauf sur un sujet très, très sensible, c'est les retraites. Hein. Les retraites, on sent qu'il n'est pas très sûr de lui, on le sent moins justement va-t-en-guerre que pour les autres.
Ils avaient laissé entendre qu'ils n'ouvriraient pas le dossier des retraites tant que celui de la SNCF serait pas réglé.
Donc ça veut dire pas avant fin juin.
Donc pour le coup, c'est aussi ça que joue la CGT, parce qu'effectivement, il y a des élections professionnelles et que voilà, l'idée de quel que soit le rapport de force avec le gouvernement, il est de toute façon bienvenu. L'idée, c'était de se dire que tant que on va faire durer ce conflit sur la SNCF pour des raisons qui concernent cette lutte-là, et en même temps de dire que ça repousse les retraites. Mais il y a un moment qui est un peu compliqué pour le gouvernement, parce qu'il y a plein de sujets qui sont des sujets qui perdurent. Enfin, la situation de l'hôpital, la question des... Enfin, beaucoup de sujets sont sur la table. Simplement, il y avait peut-être une attente formulée par le candidat Macron qui pouvait laisser imaginer en tout cas plus de vista. Mais il y a cette idée de la reprise. La cagnotte, ils ont plutôt réussi à calmer le jeu assez bien. Mais cette idée que la reprise, il y a une vraie inquiétude, c'est qu'ils savent que la reprise... Tout le monde n'en profitera pas de la même manière, on le sait, et que géographiquement, il y a des disparités très importantes. Toute la dynamique de métropole qui a été mise en place ces dernières années, qui sont pour le coup des poches de richesse, de dynamisme, qui entraînent des territoires limitrophes, ça laisse quand même des zones, je veux dire un terme technique horrible, interstitielles, c'est comme
Oula
ça,
mince,
disent que les géographes, mais des zones qui sont dans cet entre-deux, voilà, et qu'il y a deux priorités de part et d'autre, et qu'au milieu, la croissance ne va pas jusque-là, et ça laisse quand même du monde sur le bord de la route.
Catherine Rambert, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie hier, puisque nous sommes en plein mouvement social, hein, d'un député de La République En Marche sur cette gréviculture qui serait en France aujourd'hui, la France, avec culture de grève, qu'on préférerait se mettre en grève plutôt que de négocier. C'était le porte-parole d'En Marche.
Gréviculture, ça fait penser, vous savez, ces petites cultures de on a l'impression que c'est comme les huiles, la culture des perles, des huiles.
Oui, tout à fait, peut-être.
Moi, ce qui m'a juste gêné, j'ai entendu ce matin Alexis Corbière qui disait que ça venait d'une expression du Front National. Alors, ça m'a embarrassé, c'est vrai
c'est
ou pas?
C'est plus ça complexe. Alors, ça vient aussi de la CFDT. Enfin, voilà, il y a tout le monde l'a utilisé.
Ça a été remis au goût du jour en 1994 par Jean-Marie Le Pen. Et ça a été beaucoup utilisé depuis.
En tout cas, le mot fait floresse, le mot a pris, le mot a été repris par tout le monde.
D'un
point de vue communication, c'est réussi. Après, jugements moraux sur la gréviculture, soi-disant des Français, c'est à voir.
Gaspard Koenig, sur ce mot, justement.
D'abord, je vais passer au 19e siècle en rappelant que c'est Frédéric Bastiat qui avait le premier grand discours pour le droit de grève. C'était un libéral patenté, en disant que les gens ont bien le droit de s'associer pour négocier le prix de leur force de travail. Donc c'était pas au nom de la lutte des classes, mais au nom de la liberté contractuelle. Donc le droit de grève, c'est que les gens l'exercent, me paraît
il y a moins de
gens qui normalement en France
quand même le droit de grève est normalement est fait pour embêter l'employeur et pas la population, je rappelle. C'est pour ça que normalement on n'a pas le droit de bloquer les routes, par exemple.
Ouais, mais donc pour vous aujourd'hui, là, c'est en même temps ils disent on fait pas grève aussi par plaisir, hein. Je veux dire, les grévistes perdent de l'argent et c'est peut-être aussi pour eux, c'est ce qu'ils disent, c'est notre dernier moyen.
Bien sûr, mais alors ce que je trouve aussi intéressant dans tout le mouvement qui se dessine, et y compris chez les étudiants, c'est qu'on a le sentiment que c'est moins sur des sujets très précis qui concernent leur propre bien-être matériel, puisqu'encore une fois sur les cheminots,
bien entendu, ce qui a été dit, mais enfin, grosso modo, personne ne veut licencier des cheminots ou baisser leur salaire. Mais c'est plus sur des principes aujourd'hui, sur les principes de mise en concurrence pour les cheminots, sur les principes de sélection pour les étudiants. Et là, c'est plus intéressant parce que ce sont des vrais conflits idéologiques.
Ah, bien sûr, oui, bien sûr.
Et finalement, la convergence plus ou moins des luttes fait que les gens se retrouvent quand même sur les mêmes thèmes. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez un pays où il y a de la concurrence, de la sélection, de l'ouverture ou est-ce que vous voulez un pays où chacun est bloqué sur son statut, son droit?
C'est-à-dire que les gens comprennent bien qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes sécurités qu'avant et on ne les sécurise pas par ailleurs avec des promesses qui pourraient les sécuriser. Donc du coup, on leur dit lâchez et bah oui, mais qu'est-ce que je suis bien accroché à la corde, je ne vais pas tomber dans le vide.
C'est pour ça qu'il est urgent que le gouvernement prépare le revenu universel.
On aura l'occasion bien sûr d'en reparler demain puisque bien sûr ce mouvement de grève continue. Vous le savez que maintenant ça sera 2 jours par semaine jusqu'à, on ne sait pas normalement, jusqu'à fin juin. On verra bien ce qu'il en est. Merci beaucoup Catherine Rambert d'être passée ce soir aux Informés de France Info. Merci. Gaspard Cuny, La Une Figaro, Marion Bourg demain.
Sur le texte asile et immigration qui est présenté par le gouvernement et qui passe à l'Assemblée.
Tout à fait. Et La Une de Libération, Jonathan Boucher-Petersen.
Alors, vous imaginez bien qu'on ne l'avait pas fini quand on est parti ici, mais on est sur les mouvements sociaux très largement. Je précise juste qu'il y a moins de jours de grève en France qu'en Allemagne chaque année.
Très bien, c'est noté. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Killy. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour toutes les politiques au programme ce soir.
Nous montons dans le train, suite, avec nos invités Marie Lebec de La République En Marche, avec Fabien Di Filippo des Républicains, avec Michel Larive de La France Insoumise et Bruno Cotterès du CEVIPOF.
Bien sûr, voilà. En tout cas, c'est à suivre, toutes les politiques. C'est dans quelques minutes sur France Info.